Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir. Quel est l'impact socio-économique et environnemental de la pollution des rivières Chicapa et Kasaï? On en parle dans cette émission avec le professeur Raphaël Chimanga, directeur du Centre de recherche des ressources en eau du bassin du Congo. Nous recevrons également le professeur Céline Sikouli-Simoua, experte en technologie des eaux. Dans la deuxième partie de cette émission, à partir de 11h05, nous allons parler de la bourse Excellencia de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Quelles sont les conditions pour obtenir, bénéficier de cette bourse? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans cette émission de la vie au quotidien à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Pour participer à cette émission, composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Tatima Poukoua sur la coordination et la réalisation de cette émission. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Au micro, Jody Daniel Kachama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
On n'a pas bien travaillé.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Encore une fois, bienvenue dans Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. Depuis le début du mois d'août, les populations vivant le long des rivières Chicapa et Kasaï vivent une catastrophe environnementale et sanitaire sans précédent. Cette calamité sera due à la pollution de ces cours d'eau en raison des activités minières en amont du bassin versant de la rivière Chicapa, et cela dans la partie angolaise. Selon nos sources, cette pollution observera en très peu de temps le fleuve Congo à partir de Kouamout, dans la province du Maïndombe. Alors, quel est l'impact socio-économique et environnemental de cette pollution des rivières Chicapa et Kasaï? Nous avons déjà en ligne notre premier invité, le professeur Raphaël Chimanga. Bienvenue professeur, vous êtes directeur du Centre des recherches des ressources en eau du bassin du Congo. Nous parlons de cette pollution des rivières Chicapa et Kasaï. D'après vous, quelle serait l'origine? On parlerait des activités minières.
Oui, c'est que les informations en notre possession jusqu'à présent confirment que cette pollution est d'origine minière, de la source des activités minières en Angola. Bon, nous sommes en train de voir que ça viendrait de mines, des complexes miniers de Luo. Il y a Kamacha, Kamijiko et Katoka qui seraient localisés en Angola. Et lorsque nous prenons notre outil de gestion, outil de planification CB6, nous voyons déjà que c'est sur les débuts de la rivière Chicapa en Angola. Et déjà là-bas, nous voyons que vraiment des régimes miniers avec des métaux lourds. Alors, donc c'est vraiment la conséquence d'un drainage minier acide qui est en train de provoquer cette catastrophe en intoxiquant les poissons, qui sont en train de mourir actuellement, et aussi avec beaucoup de dangers sur la santé humaine et sur l'environnement.
Et pourquoi ces exploitants angolais ont cette fois-ci décidé de déverser ces déchets dans ces cours d'eau?
Disons que c'est une pratique qui se fait là depuis longtemps, sauf que nous n'avons pas eu l'opportunité de pouvoir observer cette pratique. Dans l'observer actuellement, c'est compte tenu du rejet important de déchets miniers dans la rivière qui ont sauf humaine. C'est une pratique qui se fait dans ces milieux-là, et que qui doit être réglementé, et nous devons saisir cette occasion pour que nous puissions investiguer, mener des investigations, voir quelles sont les pratiques qui sont en train de se faire dans ces milieux en amont du bassin versant de la rivière Kasaï et leurs impacts sur la population humaine dans cette partie de notre bassin versant.
Bien, on retient qu'ils ont toujours fait ça, déverser ces produits, mais cette fois-ci, ils ont exagéré. Hein, ils ont déversé en grande quantité ces rejets miniers et les métaux lourds. Alors, professeur, quel est l'impact socio-économique et environnemental de cette pollution?
L'impact, c'est ce que nous sommes en train de vouloir établir actuellement. Puisque déjà nous voyons déjà qu'il y a des problèmes sérieux, des conséquences immédiates, donc les effets les conséquences immédiates que nous avons enregistrées pour le moment, nous voyons déjà qu'il y a pollution des eaux, la couleur des eaux est devenue rouge, ce qui est dû à fer en présence de l'eau, n'est-ce pas, ça produit cette coloration là rouge. Donc c'est qu'il y a déjà des métaux lourds, la présence de métaux lourds dans la rivière. Et vous connaissez, lorsqu'il y a déjà la présence de métaux lourds dans la rivière, vous voyez ce qu'il y a, la mort de poissons qui sont là-bas. Mais les gens qui sont en train d'utiliser cette rivière, l'eau de cette rivière, les gens qui sont en train de consommer ces poissons, alors quelles sont les conséquences immédiates, les conséquences à long terme? Et pour le moment, nous voyons déjà qu'il y a intoxication et la perte de la faune et la flore aquatique. Nous voyons qu'il y a déjà des maladies d'origine hydrique pour les populations riveraines, puisque il y a des cas de diarrhée chronique qui sont déjà déclarés pour les populations riveraines. Il y a des activités, la perturbation des activités de la pêche et des navigations. Les gens ne savent pas pêcher. Il y a une interdiction sur toute l'étendue et ça, que les gens ne puissent pas utiliser cette eau-là, les gens ne puissent pas prendre les poissons, n'est-ce pas? Donc ça, nous voyons déjà que l'ampleur est vraiment élevée, puisque ce sont des populations riveraines qui ne vivent que de la pêche, de la navigation, n'est-ce pas? Ils ne savent plus utiliser ces ressources pour pouvoir satisfaire leurs besoins socio-économiques. Là, nous voyons déjà qu'il y a des impacts qui sont incroyables. Alors, nous voyons aussi le manque d'accès aux services d'eau à usage domestique et récréation. Donc, ça sont les conséquences immédiates, mais il y a aussi des conséquences à long terme que nous devons évaluer.
Bien, il y a des conséquences à long terme qu'il faut évaluer. J'annonce que là, nous allons accueillir le professeur Asser Ndzovu, il est expert en droit de l'eau. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous avez suivi le professeur Raphaël parler des conséquences de l'impact socio-économique et environnemental de cette pollution des rivières Chicapa et Kasaï suite aux activités minières à l'Angola. Alors, sur le plan du droit environnemental, professeur, qu'est-ce qui est prévu pour ce genre de situation?
Sur le plan environnemental, d'abord je remercie et je félicite les collègues professeurs Chimanga, et avec qui d'ailleurs on a échangé autour de ce sujet il n'y a pas longtemps. En fait, sur le plan du droit, bien entendu, nous avons des volets. Il y a le volet prévention qui est en faillite, parce que maintenant le dommage est là, parce que la prévention voudrait que l'on prennent des dispositions pour que la pollution n'atteigne pas les ressources en eau. Mais maintenant, nous sommes dans une situation où la pollution a déjà atteint les ressources en eau. De sorte que nous avons failli à la mission de la prévention, c'est-à-dire les autorités.
Le professeur Raphaël a dit que ils ont toujours fait ça, mais cette fois-ci, ils ont exagéré, la quantité était trop grande.
Mais justement, c'est comme ça que j'ai dit qu'on a failli. On n'aurait pas failli, on n'aurait pas dû laisser une quantité trop grande de ressources, plutôt des matières toxiques, n'est-ce pas, se déverser dans le ressource en eau. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il
on
y a...
On a failli à quel niveau? Qu'est-ce qu'on devait faire de notre côté, concrètement?
De notre côté, l'orgier. Quels sont les rejets qui sont acceptables, qui peuvent être acceptés dans les ressources en eau? Alors, le contrôle doit se faire à tous les niveaux. pour que dans la chaîne de production, évidemment, les déchets qui doivent être rejetés ne soient pas effectivement rejetés dans les ressources en eau. Mais maintenant, on a failli. Mais il semble que ce n'est pas au sein de l'État, mais c'est plutôt en dehors de notre État.
De notre pays. Alors maintenant, qu'est-ce qui est prévu par la loi de notre pays?
Il y a le problème de la responsabilité qui s'impose. Et cette responsabilité doit être endossée par l'État qui n'a pas veillé à ce que les ressources en eau soient bien protégées. Et donc la responsabilité environnementale, déjà en droit international, il est interdit à un État, un autre État. Et donc ici, c'est vraiment la violation de ces principes qui datent des 1900 États-Unis. Sur évidemment la question des pluies acides, mais nous il s'agit là de la pollution des ressources en eau. Et d'ailleurs j'en parle dans mon ouvrage intitulé Droit congolais de l'eau, qui vient d'être publié. Lorsque vous voyez le dernier titre fondamental, alors qui endosse la responsabilité et comment endosse-t-on cette responsabilité? Quels sont les moyens de la répression? Comment réparer le dommage
qui... C'est surtout ça la grande question.
La grande question, justement, comment réparer les dommages. Tout est dit.
La procédure. Que la RDC doit porter plainte, je sais pas, auprès de quelle institution pour demander réparation.
Alors, il faut dire que déjà avec l'Angola, nous sommes dans une organisation du bassin qui s'appelle la Commission internationale du bassin du Congo au Bangisanga. Et donc, il y a déjà des accords qui sont signés pour permettre à ce que si jamais il y a violation de certaines règles du droit international, que par une procédure à l'amiable, qu'on puisse déclencher les mécanismes de la réparation. C'est seulement si cette procédure à l'amiable n'aboutit pas qu'on peut alors voir, envisager quelle juridiction internationale peut-on saisir pour que la RDC rentre dans ses droits. Mais ceci exige, comme l'a dit le collègue, le professeur Chimanga, que le dommage soit quantifié. Donc, au niveau de l'État, au niveau du pays ici, tout ce qu'il y a à faire, dans un premier temps, c'est quantifier le dommage,
déjà,
identifier les victimes.
Déjà, il y a des poissons qui meurent, même des êtres humains, d'après certaines informations.
Justement, c'est ce que nous entendons. Donc, il y a les dommages écologiques, donc l'environnement, il y a les dommages humains, il y a la biodiversité qui en pâtit, et à long terme, il y a de dommages qu'il faut essayer déjà d'évaluer à ces niveaux pour permettre de se fixer sur la hauteur de la réparation. Voyez-vous, évidemment, dans ces domaines ici, quel que soit ce qu'on donnera comme montant, ça ne serait que symbolique parce que on ne peut plus reconstituer les poissons qui sont partis, on ne peut plus reconstituer les espèces qui sont endommagées et même les vies humaines qui sont parties. Mais il faudra évaluer ces dommages, et c'est justement le travail que fait mon collègue le professeur Chimanga, évaluer ces dommages afin justement de parler avec des données concrètes sur les modalités de la réparation.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons de l'impact socio-économique et environnemental de la pollution des rivières Chikapa et Kasaï. Vous avez des questions et préoccupations, composez le 081-890-63-94.
Capirotro. Faut revivre le tube des années 60, 70 et 80.
Balingi babina musique Africa.
Africa.
Tuwa bongo et tuwa bongo. Tuwa bongo.
Rumba, pop, disco, slow. Des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Lundi et mardi à partir de 23h et le dimanche à 21h.
Bien, nous parlons dans Okapi Service aujourd'hui de la pollution des rivières Chikapa et Kasaï. Quel est l'impact socio-économique et environnemental de cette pollution? En ligne, quelques auditeurs, Jonas de Kananga et Charles de Lubumbashi. Jonas, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody Daniel, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs qui nous écoutent.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce problème?
Merci Monsieur Jody de la parole. Je tiens d'abord à remercier sincèrement l'invité. Il a exposé, il a même ramassé quelques préoccupations que j'avais, notamment sur la juridiction qu'il faut saisir pour que l'État congolais rentre dans ses droits. Mais j'ai une préoccupation. Souvent, les bon, pas nous, oui, nous, même nous ici à Karanga, la plupart des surgelés, des chinchards et des poulets qu'on mange, très souvent ça vient de l'Ouganda. Bon, est-ce qu'on peut avoir déjà peur de manger ces surgelés parce qu'on sait que c'est l'Angola qui a pollué la rivière Chicapa et que la pollution a commencé en amont, parce que comme la source est en Angola. Est-ce que on peut continuer à manger les poissons surgelés qui viennent de l'Angola? Ça, c'est la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, bon, il y a eu un temps, j'étais au village, j'ai grandi au village, j'ai vu des mamans qui prenaient les écorces de certains arbres, mais ces écorces-là sont toxiques. Elles vont piler, elles vont pulvériser, et puis la poudre-là qu'elles obtiennent, elles vont jeter ça dans l'eau. Et elles polluent cette eau-là, les poissons vont mourir, et puis elles vont ramasser ces poissons-là qui vont submerger. Et alors, ça a quelles conséquences sur la santé par rapport à ce qui s'est passé là? Parce que là aussi, des poissons meurent. Et peut-être, j'imagine que comme les Congolais est vraiment c'est un état là, j'imagine qu'il y en a qui ont mangé ces poissons-là, des poissons qui sont morts à partir de l'eau polluée. Voilà les préoccupations que j'avais. Merci et bonne journée.
Merci Jonas. Charles, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour, je suis monsieur le chef de JT.
Et on vous écoute, Charles.
Oui, en tout cas, c'est dommage pour ce que nous venons de suivre. Alors, nous voulons un peu savoir dans combien de temps faut-il observer pour utiliser l'eau de ces deux rivières. Et puis, comment expliquer ce silence juridique dans notre pays? Parce que même ici, à l'interne, ici à Lubumbashi, par exemple, la plupart, la quasi-totalité de nos rivières sont souvent polluées. Mais il y a toujours un vide juridique. Comment expliquer tout cela? Voilà un peu ce que je voulais demander à l'invité.
Bien, merci Charles de Lubumbashi. Bien, professeur Raphaël Chimanga, vous avez suivi les préoccupations des auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est que nous avons un grand problème de gestion de l'eau dans notre pays et sur l'ensemble du bassin du Congo, puisque nous avons les eaux partagées. C'est que nous les partageons avec d'autres pays qui sont en amont, n'est-ce pas? Et là, ils ont l'obligation, n'est-ce pas, de la protection des usagers qui sont en aval, notamment les pays riverains du bassin du Congo qui sont en amont, ont cette obligation de pouvoir protéger les pays qui sont en aval, la RDC, des pollutions des eaux. Alors, par exemple, pour le moment, nous savons qu'il est interdit que les poissons qui viennent des rivières Chicapa, Kasai, tous ces cours d'eau qui sont pollués, que ces poissons soient utilisés pour la consommation humaine, puisque les poissons auraient bien accumulé les métaux lourds, et puis c'est que les populations qui vont devoir consommer ces métaux lourds auront aussi des conséquences sur la santé. Les conséquences peuvent ne pas se manifester immédiatement, mais certainement ça va se manifester à long terme. Donc ça c'est ça ce qui est là. Bon, les poissons qui viennent d'Angola, nous savons déjà, nous voyons déjà ce cas ici. Moi, je confirme que ce n'est pas la première fois que ça s'est fait et c'est une pratique. Lorsque nous avons partagé l'article en ligne sur cette problématique de pollution des rivières Chicapa et Kasai, et vous allez voir des images que si nous prenons des images de 2010, 2015 et tout ça, vous allez trouver que il y a déjà des pollutions comme ça qui se font sur ces sites au niveau de l'Angola, donc au niveau des activités minières et consorts. C'est que déjà il y a une sorte de pollution latente ou bien des effets de pollution qui sont latents. Alors c'est que il y a lieu que nous puissions déjà amorcer une procédure de surveillance des rejets miniers dans des cours d'eau dans toute cette partie d'exploitation minière au niveau de l'Angola, que ce soit aussi au niveau de la RDC et au niveau de Lubumbashi, comme notre ami Charles qui vient de le mentionner, qu'au niveau de Lubumbashi, il y a des rizières qui sont polluées. Bien entendu, lorsque les rizières sont polluées avec des régimes miniers, c'est qu'il y a des conséquences sur la santé humaine, il y a des conséquences écologiques, il y a des conséquences sur la biodiversité qu'il faut devoir évaluer. Et c'est là, moi je dis, nous devons déjà en ce moment, c'est une grande interpellation pour les décideurs, pour les scientifiques, pour les professionnels, pour que nous puissions penser à un cadre adéquat de gestion durable de nos ressources en eau. Là, je fais allusion au principe de pollueur-payeur, qui est un principe de base de gestion des ressources en eau. Celui qui pollue, il doit payer, et nous devons évaluer les dégâts pour que nous puissions évaluer, nous puissions déterminer les coûts de réparation. Pour le moment, par exemple, nous estimons que la population exposée à cette pollution sur les tronçons Tchikapa, rivière Tchikapa, Kasai est estimée à 2 millions de personnes. Donc c'est
2 environ millions de
2
personnes
millions de
touchées.
Personnes qui sont exposées donc, dans les territoires de, bien entendu, Lunda Sud, Lunda Nord. Dans les territoires de Tchikapa, Ilebo, Dibaya Lugwe, dans les zones administratives de Panou, Pinanga, Kutumuke, Lediba, Kwamout, et vraiment la pollution est en train de progresser vers Kinshasa. Kinshasa étant situé environ à 190 km de Kwamout, nous disons que les effets de la pollution au niveau de Kinshasa sont actuellement à craindre. C'est que, comme l'a dit mon collègue, le professeur Anser Zovou, que je salue et nous collaborons vraiment avec lui sur cet aspect des choses, c'est que nous devons actuellement, donc les impacts sont consommés, nous devons les évaluer, nous devons voir comment est-ce que nous devons régler ces différends avec l'Angola au travers du cadre institutionnel établi au niveau régional. Mais pas seulement ça, je dirais aussi que il faut qu'il y ait une mission urgente qui descend. Bien entendu, on est en train, selon les rapports qui nous viennent de terrain, nous sommes informés que la pollution est en train de pouvoir se dégrader, donc en concentration, mais nous devons envisager une mission sur terrain au niveau de la source de pollution pour vraiment constater qu'il n'y a plus les rejets de pollution, de déchets miniers dans les rivières sont vraiment arrêtés immédiatement. Donc c'est là que nous insistons que notre gouvernement puisse vraiment diligenter cette mission en collaboration avec les pays pollueurs pour que nous puissions constater que sur les lieux, au niveau de la source, on a arrêté les activités minières et il n'y a plus rejet dans la rivière. Et puis après
Professeur
cela,
Raphaël,
nous devons aussi prélever des échantillons en différents points. Pour le moment, nous avons identifié 10 sites de prélèvement des échantillons. Alors, nous devons prélever les échantillons au niveau des surfaces, au niveau des profondeurs des cours d'eau. Nous devons aussi prélever les échantillons au niveau des berges. Nous devons prélever les échantillons des spécimens pour pouvoir venir les analyser. J'insiste ici que nous avons aussi une station automatique d'enregistrement d'enregistrement des échantillons qui collecte les échantillons 24 heures sur 24 installés sur la rivière Kasai au niveau de Kutumuke. Nous allons nous servir des échantillons déjà collectés à ces sites ici et qui vont nous donner déjà l'idée de voir la situation avant la pollution, pendant la pollution et après la pollution. Et c'est d'ailleurs l'unique station complète que nous avons en ce moment sur la rivière Kasai qui peut nous donner l'information crédible d'une façon temporelle.
Professeur Raphaël, on va accueillir deux auditeurs, Valentin depuis Lebo et ingénieur José de Tchikapa. Valentin, bonjour.
L'invité, bonjour à tous les auditeurs de l'émission La vie au quotidien.
On vous écoute, Valentin.
Ah oui, vraiment, je suis très touché de cette thématique du jour. C'est un peu regrettable. La rivière Kasai a plusieurs impacts du point de vue environnemental. Je parle d'abord de la cité du Lebo ici. Il y a plusieurs quartiers qui utilisent cette eau en faisant la lessive, en puisant pour les travaux ménagers, ainsi de suite.
Valentin, mais on a interdit à la population de ne pas utiliser cette eau pour l'instant.
Mais quand vous parlons, il y a des villages qui vivent à cause de cette rivière Kasaï, qui manquent même des sources pour puiser. Alors, qu'est-ce que notre gouvernement a mené comme action pour intervenir, pour mettre fin à cette pollution? Nous sommes un peu en danger. Nous avons les mamans Mombongo qui ont perdu leur argent quand les poissons qui naviguaient là, les poissons morts. Nous avons vu des qualités de poissons vraiment qui faisaient même horrible. Ici, il est beau, je ne l'ai jamais vu pendant cette période. Mais nous avons vu ça. Les espèces, vraiment, c'est un peu formidable. Et aujourd'hui, nous avons tous les pêcheurs qui menaient leurs actions sur la rivière Kasaï, sont partis vers Sankourou. Bon, là-bas, il y aura un peu, il y a une multitude là-bas au Sankourou. Est-ce que les pêcheurs de Sankourou vont accepter les pêcheurs de Kasaï aller inonder leur terrain? C'est un peu terrible. Non, mais le gouvernement est là, ne mène plus les actions. Nous sommes là, la population est en danger. Il y a les gens qui ont utilisé cette eau avant même qu'on puisse interdire, avant que les autorités politico-administratives lancent le message à la population de ne plus acheter les poissons. Il est bon d'être un territoire riche en poissons, mais aujourd'hui, il y a la hausse des prix des viandes, des cochons, des chèvres, ainsi de suite, à cause de cette interdiction des poissons. Les poissons même qui quittent Sankourou vers Ilebo sont un peu doutés par la population d'Ilebo. Vraiment, nous demandons l'intervention du gouvernement pour mener les actions, mener ces enquêtes devant le gouvernement angolais et mettre fin à cette situation. C'est un peu ça, monsieur, je vous dis.
Merci Valentin depuis Ilebo. Ingénieur José de Chikapa, bonjour.
Bonjour, M. Jody.
On vous écoute.
Ok, M. Jody, ce phénomène qui dure maintenant près de 10 jours dans les eaux de la rivière Kasaï et de la rivière Chikapa nous étonne beaucoup. En fait, nous dénonçons une activité de l'État tant qu'au niveau provincial qu'au niveau national. À ce niveau, au stade actuel, l'opinion ne sait même pas fixer si il s'agit réellement de quoi. Et si c'était une usine angolaise qui a versé des matières toxiques, c'est pour dire. Et quelle est la matière toxique qui peut infecter et décolorer même un gras affluent du fleuve Congo, vu que l'environnement est menacé? La rivière Chikapa et la rivière de Kasaï se croisent près de la régie des eaux. Quelle garantie que l'on donne à cette population qui consomme cette eau? Et les gens qui présentent maintenant la diarrhée, quelles dispositions que l'État a prises? Et enfin, les poissons qui meurent maintenant. Nos rivières resteront sans poissons? Cette thématique vraiment, ça nous dérange beaucoup. Et aussi ici à Chikapa, nos mamans petits, ils sont toujours là en train de se laver, ils utilisent cette eau-là en catimini. Bon, l'État, sous l'œil impuissant de l'État, l'État provincial, nous ne comprenons même pas qu'est-ce qui se passe. C'est à partir de Kinshasa que nous avons suivi le gouverneur de Chi, qui nous disait depuis Kinshasa qu'il a contacté son collègue de Lunda Nord. Mais ici en province, nous avons des véhicules, nous avons des gens qui partent de temps en temps en Angola. Qu'est-ce qui a empêché pour que les gens quittent ici, aillent voir la vérité à la source et puis fixer l'opinion ici à Chikapa? Parce que ici à Chikapa, nous ne sommes pas convaincus qu'il s'agit de quoi réellement. C'est ça ce qui nous laisse un peu perplexe. Et aussi les poissons mères, les gens n'obtempèrent pas aux décisions prises par les autorités.
Ils continuent à consommer ces poissons.
Ils continuent toujours à consommer ces poissons-là. Et d'autres qui les vendent, tu ne peux pas t'imaginer que ça, c'est les poissons de la rivière Kasaï, soit de la rivière Chikapa. On te dira toujours que c'est pour la rivière Kasaï. Il faut toujours consommer. Et quand tu vas tomber malade, on ne saura même pas quoi imaginer. Parce que ceux qui présentent maintenant la diarrhée, mais il n'y a aucune discussion qui risque. C'est les parents qui peuvent s'occuper de ses enfants. D'eux-mêmes, ils achètent des comprimés. Nous ne comprenons pas l'inactivité de l'État congolais, mon Dieu. Ces pays ici, non. Vraiment, le pays doit changer, vraiment.
Merci, ingénieur. D'accord, merci.
Près de 10 jours pour entendre que l'État va réagir. Le ministre de l'Environnement nous dit non, nous allons envoyer une commission. Après combien de jours? On attendait pour qu'on souhaite des condoléances à des familles.
Voilà, il faut une réponse urgente par rapport à cette catastrophe.
Ça, oui. Ça vraiment, c'est une inactivité qu'on ne peut pas donner un nom. C'est vraiment bizarre.
Oui, merci ingénieur, on comprend votre désarroi. Professeur Asser.
Merci beaucoup. Je salue l'intervention de tous les intervenants. En fait, le problème doit être envisagé sur plusieurs plans. Et d'abord sur les plans de ce qu'on dit du point de vue de la loi, parce que j'ai entendu un auditeur dire que il y a un vide juridique
dans ce secteur.
Non, il n'y a pas de vide juridique. La loi est claire. Il y a interdiction de rejet des substances toxiques. Et même notre constitution en parle. Donc, c'est même érigé en infraction. Ce comportement-là est un comportement infractionnel. Celui qui fait des rejets dans des matières toxiques dans les ressources en eau. Alors, ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a le problème qui vient de survenir. Parce que j'avais dit au départ que nous avons failli. Il faut surveiller les ressources en eau, surveiller tout ce qui va à l'eau qui va polluer. Mais quand l'eau est polluée maintenant, on interdit aux gens d'accéder, de boire cette eau-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faudra que le gouvernement intervienne pour établir les
mécanismes palliatifs. Oui, une autre solution.
Mais parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. L'eau, dit-on, c'est la vie. Donc on ne peut pas passer une journée sans eau. Il y a des populations qui dépendent de ces ressources en eau. Maintenant qu'on interdit, maintenant qu'il y a les dégâts, mais quel est le mécanisme, l'alternative? L'alternative doit être mise sur pied urgemment pour que justement les populations soient mises à l'abri. Sinon, le dommage va s'accentuer. Donc l'évaluation qu'on vient de faire là risque de s'accentuer, ce qui n'est pas bon. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, sur les plans des acteurs qui doivent intervenir. La loi donne la compétence d'abord au ministère de l'Environnement chez nous, qui doit intervenir pour essayer de voir cette question par rapport à l'évaluation des dommages. Mais le ministère de l'Environnement doit associer justement les centres de recherche qui sont bien outillés, qui sont équipés pour que le dommage soit effectivement évalué correctement de façon à permettre une bonne réparation. C'est le cadre, par exemple, de ce que fait mon collègue, le professeur Chimanga. Ça veut dire qu'il faudra associer ces résultats-là pour qu'on ait effectivement la bonne réparation. Alors troisièmement, continuer la surveillance.
Qu'est-ce que l'État congolais doit faire d'urgence? Parce qu'il y a urgence. Vous avez suivi les désarrois des compatriotes qui sont là-bas. Ils disent qu'il n'y a aucune disposition jusque-là. Qu'est-ce qui doit être fait de manière urgente pour aider ces populations?
Urgemment, arrêter la pollution. Surveiller pour que la pollution soit arrêtée.
Urgemment, est-ce qu'il est possible de dépolluer la rivière? À ce stade.
Évidemment, ça c'est mon collègue, le professeur Chimanga,
qui nous le dira
quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour dépolluer. Mais déjà, la surveillance doit être installée rapidement pour que l'eau ne continue pas à être polluée. Ça c'est un. Deux, pour épargner les personnes qui accèdent à ces ressources en eau, il faudra urgemment trouver les mesures palliatives, c'est-à-dire donner de l'eau à ces gens-là, à toutes ces populations qui sont en souffrance, leur trouver de quoi survivre maintenant, parce qu'ils vivent des poissons.
Des poissons, oui.
Alors, maintenant qu'ils ne peuvent plus consommer ces poissons-là, il faut trouver des mesures pour
que... Il y a même les pêcheurs qui sont allés vers les Sankourou, et il y a un auditeur qui se disait, est-ce que là-bas, ils seront acceptés par les autres pêcheurs qui exploitent là-bas.
C'est comme ça que justement un auditeur est en train de regretter l'inactivité du gouvernement, la passivité.
Mais apparemment, il y a une délégation de l'INRB qui est allée faire des prélèvements.
Oui, mais il suffit pas de faire des prélèvements. On fait les prélèvements pour venir savoir, pour venir déterminer les degrés de la pollution. Mais dans l'entretemps, la population doit vivre. Donc, même si on pose ces actes-là en termes de vérification du degré de la pollution, il faut urgemment que les mesures palliatives soient mises sur pied pour que les populations soient épargnées. Sinon, on va assister à une catastrophe, ce qui n'est pas normal. Mmh. Et donc, la population va être décimée et on va les regretter plus tard. Mais déjà, avec les écosystèmes, il est difficile aujourd'hui d'établir, de rétablir ou de remplacer les poissons qui meurent. Et on n'a pas de mécanisme pour les remplacer. C'est comme ça que, en droit de l'environnement, la prévention vaut mieux. Parce que le dommage, il est irréversible, dit-on. Donc, on n'a pas de mécanisme pour reconstituer correctement les écosystèmes. Voilà pourquoi...
Oui. On va accueillir professeur Céline Sikoulissimoua. Bonjour. Professeur Céline, bonjour. Allô, professeur? Professeur Céline Sikoulissimoua, vous êtes experte en technologie des eaux. Bonjour.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez?
Oui, oui, on vous entend très bien cette fois-ci. Alors, nous parlons de l'impact socio-économique et environnemental de la pollution des rivières Chicapa et Kasaï. Certains auditeurs déplorent le fait que depuis 10 jours, il n'y a pas une assistance de la part du gouvernement. On leur demande de ne pas utiliser cette eau et pourtant, leur vie est liée à cette eau. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire de manière dans l'urgence pour assister ces populations?
Merci beaucoup pour la question. Je pense que de manière urgente, il faut trouver une solution palliative. Si la population s'approvisionne en eau, c'est déjà un problème qui existait déjà. Il y a la possibilité de voir d'autres sources en dehors de la rivière et rapidement tenter de faire des forages s'il y a moyen pour sortir cette population de là. Une autre possibilité, ce serait d'amener dans les citernes d'eau, de l'eau à la population pour tant soit peu régler cette question aussi rapidement que possible. Ça, ce sont les deux premières possibilités, si c'est faisable, bien entendu.
Professeur, est-ce qu'à ce niveau, il est possible d'arrêter cette pollution parce qu'il semble que les eaux du fleuve Congo sont aussi menacées?
Les eaux du fleuve Congo sont menacées dans la mesure où la rivière Kasaï est un des grands affluents, sinon le plus puissant, du fleuve Congo. Et logiquement, qu'on le veuille ou pas, cette pollution atteindra bel et bien le fleuve et Paris-Cochet arrivera jusqu'à Kinshasa au besoin plus loin. Pour la simple raison que la pollution vient bien sûr de l'Angola, ce qui pouvait être stoppé. On peut limiter les dégâts à partir de la source de pollution, c'est-à-dire faire en sorte que les rejets qui étaient jadis envoyés dans l'eau de la rivière Chicapa ne puissent plus l'être, et ça va stopper. Mais dans la suite, il sera probablement difficile pour l'instant, quasi impossible d'empêcher la progression, parce que vous avez affaire à des flux, et des flux qui progressent en fonction du débit de la rivière, de la vitesse d'écoulement des eaux, et donc ça ne pourra pas être quelque chose de facile.
Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie pour dépolluer l'eau à ce stade?
Une stratégie pour dépolluer l'eau à ce stade, on peut commencer à le faire, mais les résultats ne seront pas immédiats parce que d'abord il faudra identifier exactement le polluant. J'ai entendu parler du nitrate et du fer, donc il faudra trouver les moyens. Actuellement, on peut penser à la phytorémédiation, mais ça prendra du temps et des moyens, bien sûr, parce que il faudra d'abord faire des essais pour voir si ça pourra marcher. On ne pourra pas retirer l'eau du cours d'eau pour commencer à pomper et remettre, donc les dégâts sont déjà là. Je pense qu'il faut plutôt penser à l'avenir beaucoup plus pour éviter que la solution commence par limiter, stopper la source de pollution et ensuite, avec le temps, probablement veiller à ce que ces eaux ne soient pas utilisées par les populations.
Bien, professeur Raphaël, au niveau de l'Angola, est-ce que ces sociétés minières-là déversent ces rejets de manière permanente ou bien c'est tout simplement de manière sporadique?
Rationaliser. Toutefois, je sais que c'est une pratique courante. Lorsqu'ils sont en train de faire les activités minières, ils déversent les rejets dans des rivières, dans des cours d'eau. Et ce qui est grave maintenant, c'est que il y aurait eu un grand rejet pour lequel nous avons vu des effets immédiats que nous sommes en train de déplorer. Alors, je reviens pour dire que la rivière Kasaï, par exemple, c'est une très grande rivière qui atteint des débits de 12 000 mètres cubes pendant la période de crue et où nous avons des largeurs de plus d'un kilomètre par endroit. Donc, dépolluer une telle rivière pendant la période des saisons des pluies. Mais ce qui est vraiment à craindre pour le moment, c'est la dépollution des eaux souterraines, puisque les rivières sont alimentées à partir des eaux souterraines. Et si il y a contamination des eaux souterraines, alors ça prendra des milliers d'années pour pouvoir dépolluer les eaux souterraines et
Raphaël Chimanga, directeur du Centre de recherche des ressources en eau du bassin du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, Monsieur Diodi. Merci.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
je
à ça.
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Quel est l'impact socio-économique et environnemental de la pollution des rivières Tchikapa et Kassai? Nous avons en ligne professeur Céline Sikoli-Simoa, experte en technologie des eaux. Alors une autre question, professeur, est de savoir aujourd'hui... Les dégâts sont là, les dommages sont là. Alors comment doit se faire l'évaluation pour demander réparation auprès de l'Angola?
Merci beaucoup pour la question. Les dégâts économiques, on va en compter. Certes, il y a déjà le fait que les poissons soient contaminés. Ça impacte déjà sur la sécurité alimentaire de la population et ça, il faut y veiller. D'autant plus que l'eau est utilisée aussi pour l'agriculture, donc il y aura également des dégâts de ce côté-là. Ce qui est faisable, c'est peut-être de penser actuellement, s'il y a des zones agricoles, de penser à créer de sortes de barrages de rétention, récupérer l'eau et penser à dépolluer avant d'utiliser pour l'agriculture. Parce que cette eau-là, dans l'état où elle se trouve, elle ne peut pas être utilisée comme telle. Il faudra veiller à ce que les différentes activités économiques qui en dépendent ne soient plus tributaires de cette rivière. Ça, c'est parmi les choses à faire. Alors, dans l'avenir, si je peux me permettre, dans l'avenir, je crois que afin que cela n'atteigne pas la santé humaine, parce que la biodiversité est déjà attaquée, il faudra réfléchir sur les moyens de régler la question à travers l'utilisation des plantes capables d'accumuler les polluants, si c'est le fer, si c'est le nickel, tel qu'on le dit, compte tenu de la situation actuelle, pour pouvoir faire cette dépollution. Mais elle sera lente, hein, ne prendra pas moins de 5 ans. C'est pas évident. Évidemment, ça dépend de la quantité de pollution qui a été rejetée dans la rivière. Donc, il faudra identifier cette espèce-là, si nous l'avons sur place. Si nous ne l'avons pas, eh bien, il faudra voir comment la mener pour faciliter les choses. Pourquoi nous proposons des solutions biologiques dans un premier temps? C'est pour éviter aussi d'autres situations. Vous savez, la loi dans le secteur de l'environnement, hein, en matière des eaux partagées, en matière de coopération à la protection des cours d'eau partagés, parce que le cours d'eau, il vient de l'Angola et la RDC a une partie de ses eaux. Et nous sommes pratiquement en aval de l'Angola. Les États en principe sont censés coopérer pour la protection des cours d'eau et puis leur mise en valeur. Et donc à cet effet, chaque État doit s'engager à ne pas causer des dommages significatifs. Malheureusement, c'est déjà le cas. Et donc l'État également, ces lois précisent aussi qu'il faut parvenir à s'entendre, à protéger et préserver les écosystèmes, mais surtout tenir compte du fait quand il y a un dégât qui s'est fait, l'État qui est responsable de ces dégâts doit en principe régler cette
doit
question.
Doit réparer.
Oui, doit réparer les dommages qui sont causés. Vous savez, même naturellement parlant, quand on a causé des dommages chez autrui, eh bien il faut
les réparer, bien entendu.
Il faut les réparer et cela devait déjà être fait dans les clauses entre les commissions mixtes, c'est-à-dire la commission venant de la RDC, la commission de l'Angola, qui jadis se seraient mises ensemble pour résoudre cette question, prévenir de ce genre de situation, parce qu'il peut y avoir des intoxications ou de contaminations accidentelles. Ça peut arriver, on ne le souhaite pas.
Oui.
Et donc, déjà en amont, il aurait fallu qu'il y ait une commission venant de la RDC et une autre de ce côté-là. Et ça doit se faire pour tous les cours de partagé.
D'accord.
Ils se mettent ensemble, ils réfléchissent sur ce qui va être fait en cas de problème, comment on réagit, est-ce que toutes ces questions-là avaient été posées en son temps. Je ne sais pas où on est.
On aura l'occasion de revenir là-dessus. Professeur Céline Sikolissi, moi, je rappelle que vous êtes experte en technologie des eaux. Merci. Excellente journée, professeur. Bien.
Au revoir.
Ok. On va accueillir des auditeurs. Justin Calabia depuis Yarou et Albert de Manaka. Justin, bonjour.
Monsieur, je dis Daniel Kachama, bonjour à notre invité. Malheureusement, elle est partie.
Oui, bon, elle reviendra la prochaine fois. Quelle est votre question, Justin?
Monsieur, je dis, vous allez me pardonner parce que j'aurai la gourmandise de participer à toutes les deux thématiques du jour qui parlent aussi de la fondation de Madame...
La bourse, c'est dans la deuxième partie. Posez d'abord la question par rapport à l'environnement.
Oui, ma question est celle de savoir, monsieur, je dis, par rapport à l'environnement, je ne sais pas, la pollution, hein, la pollution de cette rivière-là, qu'est-ce que le gouvernement, ou bien qu'est-ce que le premier ministre, ou bien le ministre de l'environnement, qu'est-ce qu'il propose par rapport à cette pollution? Et ça, c'est la première question. Et l'État congolais a disponibilisé quels moyens?
Merci. Albert de Mbandaka, bonjour.
Ouais, merci, monsieur le journaliste, bonjour.
Quelle est votre question, Albert?
Bon, vraiment, parce que le problème est déjà, on n'a pas encore beaucoup à discuter, on va chercher des pistes et des solutions. Maintenant, j'espère qu'au Congo, nous avons le ministre chargé de l'environnement. J'espère que c'est la maman El Bazaïba, elle doit s'occuper de cela avec le gouvernement congolais. Mais le problème, c'est quoi? C'est un problème urgent et ça demande l'intervention dirigeante pour sauver la vie qui est dans ce rivière-là. Parce que la vie d'une personne dépend de la qualité de l'environnement qui l'entoure. Si la qualité de l'environnement est mauvaise, automatiquement, il y aura des problèmes. Maintenant, l'eau est la vie. L'eau est la source de la vie. C'est-à-dire, sans l'eau, on ne peut pas vivre.
D'accord.
Maintenant, le gouvernement congolais va faire le tout. Parce qu'on a déjà, prévu quelque chose, on va le faire, mais c'est une situation dirigeante. Je demande au gouvernement congolais et au monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi-Tshilombo, d'intervenir face à cette situation d'une façon rapide pour sauver la vie humaine.
Bien. De nos compatriotes. Merci. Professeur Hassan Nzovu, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc, toutes les préoccupations ont été ramassées, mais du point de vue juridique, justement, comme vous le constatez, nous sommes au moment de la réparation qui doit être évaluée. Mais
professeur Céline a parlé d'une commission mixte qui doit être mise en place.
Naturellement, nous avons déjà, je l'avais dit, nous avons une commission nous avons un cadre juridique bien établi entre nous et l'Angola. Et donc, il faudra mettre en œuvre par rapport à l'Angola. Alors, mais par rapport aux populations ici, comme je l'ai dit, on doit agir, le gouvernement doit prendre la question à bras le corps pour essayer d'épargner les populations, essayer de prendre des mesures
humanitaire,
palliatives.
Affaires sociales aussi, ça
l'humanitaire
peut...
à faire son travail afin que le zoo soit mis à la disposition finalement de la population.
Donc, dernière partie, où est-ce qu'on peut le trouver, cet ouvrage,
Cet ouvrage, vous le trouvez... d'abord chez moi, et utiliser justement pour résoudre les problèmes qui viennent de se poser. Donc la dernière partie est essentiellement consacrée à la réparation du dommage et donc à la répression.
Là-bas, on détermine les modalités de réparation.
Naturellement, les modalités de la réparation et même la procédure à initier, tant sur les plans internes que sur les plans internationaux, dans quelle mesure on peut rentrer dans ces droits et comme, comme vous les dites justement, sur 5 titres. Et
alors,
donc, le dernier titre.
Oui, professeur.
J'ai dit, parce que cette compétence revient au ministère de l'Environnement. Et donc, le ministère de l'Environnement devra associer, déjà commencer à travailler. En plus de l'INRB, il y a les centres de recherche qu'il faut associer et les experts que nous avons pour que ceux-ci puissent effectivement faire un travail de qualité afin que le dommage soit véritablement évalué correctement. Sinon, parce que on a vraiment des difficultés, les dommages environnementaux sont parfois échelonnés, étalés à long terme, si on ne prend pas garde à la hauteur de ces dommages. Et donc, le ministère de l'Environnement est appelé à associer les experts.
Il faut agir de manière urgente.
L'humanitaire doit agir urgemment pour voir comment disponibiliser les sites pollués. Sinon, alors...
Ce sera la catastrophe.
La catastrophe, effectivement.
Bien, professeur Acer Nzo, fidèles auditeurs, nous allons suivre les informations tout à l'heure et on va se retrouver juste après pour parler de la bourse Excellence la Nizniake Rutshisekedi. Comment obtenir cette bourse? Quels sont les critères? Voilà, des sélections des bénéficiaires. Eh bien, nous allons répondre à toutes vos questions tout à l'heure.